Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 286e numéro de Mélomanie. Le concert de clôture de la 29e édition du festival Toulouse des Orgues, dimanche, a marqué la fin de la période des festivals du début de l'automne. Place maintenant aux saisons de concerts qui ont presque toutes commencé. C'est le cas par exemple du cycle des grands interprètes dont le premier concert a été donné par le China National Symphony Orchestra jeudi dernier à la Halle aux Grains. Nous allons y revenir sur celui-ci et sur d'autres avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Je vous disais que toutes les saisons de concerts étaient désormais lancées. Eh bien non, pas tout à fait, puisque celle des Arts Renaissants débute le mardi 12 novembre avec l'ensemble The Curious Bards à Saint-Pierre-des-Cuisines. Pour vous présenter cette saison 24-25, j'ai invité le président Claude Scavazza et le directeur artistique des Arts Renaissants Jean-Marc Andrieux. On en parle avec eux en seconde partie d'émission dans les médias. C'est l'actualité musicale récente qui va nous intéresser. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et retour pour commencer sur Nabucco de Giuseppe Verdi, donné à l'Opéra National du Capitole lors de 9 représentations, dont la dernière a eu lieu le 8 octobre. Tout affichait complet et le succès public et critique a été, semble-t-il, au rendez-vous. Avez-vous aussi été enthousiasmé par cette nouvelle production mise en scène par Stefano Poda, Serge?
Ah oui, absolument. Ça a été vraiment une grande réussite. Et la demande était telle que les 9 représentations, initialement, n'étaient qu'au nombre de 8 et que donc la direction de l'opéra a dû rajouter une représentation avec un autre chef d'ailleurs, parce que Giacomo Sagripanti, qui était le chef qui dirigeait l'ensemble des représentations, n'était pas libre ce soir-là. Donc voilà, vraiment un grand succès. Alors, je dois dire que la mise en scène de Stefano Poda, qui est un habitué de la scène du Théâtre du Capitole, il nous a donné déjà des mises en scène magnifiques par le passé. Là, il a continué avec toujours un talent incroyable, et alors en endossant tous les rôles, puisqu'il est à la fois metteur en scène, il fait les décors, les costumes, les lumières et la chorégraphie. Et avec une belle distribution, alors il y avait 2 distributions, selon l'habitude que Christophe Christie a mis en œuvre, donc en général. Et moi j'ai assisté à la première distribution, vraiment excellente, hein. Il n'y a pas de faiblesse dedans, avec comme Nabucco, Gesine, Mischketa, vraiment un grand baryton, un baryton basse, mais vraiment excellent. Abigail était l'espagnole Yolanda Aoyanet. Alors, Abigail, c'est un rôle enchantable, hein. C'est d'une difficulté avec des aigus énormes, bon, une tessiture vraiment enchantable. Et là, elle a fait ça avec beaucoup de talent et en incarnant le rôle, donc très très bien. Ismaël est donc le rôle du ténor, c'était Jean-François Bourras qui lui a fait toutes les représentations. Très bien, on le connaît bien à Toulouse, hein. C'est vraiment un grand chanteur. Et puis avec Zacharia, moi j'ai vu Nicolas Courjal, excellente basse avec des creux impressionnants, enfin, ce qu'il faut pour chanter ce rôle de Zacharia, de grand prêtre. Puis Fenena, qui est aussi un rôle important, c'est la fille de Nabucco, la vraie fille, puisque Abigail, c'est la fille d'un esclave, en fait, qui a été prise pour la fille de Nabucco. Donc là, excellente aussi, Irina Sherazadishvili.
Une géorgienne, a priori.
Vous comprenez quelle est sa nationalité. Et puis d'autres rôles, de rôles secondaires pour le grand prêtre, Anna Abdallo, et tous vraiment de très bon niveau. Alors, il faut surtout dire vraiment la qualité de la direction et de l'orchestre. Sacripanti est un habitué de ce répertoire, hein. Vraiment, et l'orchestre a magnifiquement joué. Il a été d'ailleurs l'orchestre acclamé à la fin de la représentation. Hein. Et le chœur, magnifique aussi, parce que le chœur est
très important,
extrêmement important. Pas simplement pour le fameux chœur Va Pensiero, qui chaque fois est acclamé, évidemment, mais vraiment de très beaux éléments pour assurer la réussite de ces représentations.
Donc, quand on dit 9 représentations au complet, c'est à peu près 10 000 spectateurs tout de même. Je ne sais pas si on se rend bien compte.
Et oui.
C'est 10 000 spectateurs pour cette production qui lançait la saison de l'Opéra National du Capitole. Alors, je vais donner les noms de ceux qui étaient dans la seconde distribution. Oui. Donc, il y avait Alexei Isaïev en Nabucco, et c'était une prise de rôle pour lui. Catherine Hunold, qu'on connaît bien, oui, au Capitole en Abigail. Et puis, donc, Nicolas Courjol, vous les avez cités, Jean-François Borras et Soukan Jayani étaient, eux, de toutes les distributions. Et pour le plaisir, nous allons réentendre une dernière fois ce qui demeure l'air le plus célèbre de Nabucco, ce tube indémodable, Va Pensiero, le cœur des esclaves hébreux. Va Pensiero, le cœur des esclaves hébreux de Nabucco, dans une version dirigée par Riccardo Muti. Prochain rendez-vous à l'Opéra National du Capitole, rendez-vous lyrique, ce sera la création mondiale de Voyage d'automne, l'opéra de Bruno Mantovani, du 22 au 28 novembre. Il va y avoir 4 représentations. La semaine dernière, jeudi précisément, a été lancée la saison 24-25 des grands interprètes, avec le concert du China National Symphony Orchestra à la Halle aux Grains, sous la direction du compositeur Tan Dun, dont une des œuvres a d'ailleurs été jouée ce soir-là. C'était une grande première à Toulouse pour cette formation très réputée en Chine, mais pas seulement. Serge, est-ce que cette première a été réussie ?
Oui, elle a été réussie, et alors pour plusieurs raisons. D'abord, l'espèce d'œcuménisme musical qui a été considéré pour établir le programme, puisqu'il y avait 2 œuvres chinoises contemporaines et 2 œuvres du grand répertoire occidental, du Mozart et du Stravinsky. Donc vous voyez, il y avait vraiment de tout. Alors pourquoi effectivement cette année la venue de cet orchestre ? Eh bien tout simplement parce que c'est pour fêter le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Et alors pourtant, cet orchestre, s'il vient pour la première fois, avait déjà des liens avec Toulouse, c'est paradoxal, puisque n'oublions pas qu'en mars 2010, Michel Plasson a été nommé directeur musical de cet orchestre pour quelques années, et il était le premier étranger, le premier non-chinois à diriger cet orchestre qui a été quand même fondé en 1956. Donc la première œuvre qui était au programme était signée du chef et directeur musical de la Phalange, qui s'appelle Tan Dun, et cette pièce s'appelle « Le langage secret du vent et des oiseaux ». Alors c'est qualifié de Mobile Symphony Poem. On peut se demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que parmi les instruments de l'orchestre figuraient les smartphones des musiciens, et ils utilisaient ces smartphones pour diffuser des chants d'oiseaux et de vent qui étaient imités par des instruments chinois. On avait l'impression vraiment d'être en plein air et d'entendre à la fois les oiseaux, le vent et les instruments traditionnels, donc les instruments occidentaux actuels hein, de l'orchestre. Mais c'était vraiment intéressant, hein, mais tout nouveau, et ça a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Ensuite, on est passé de l'autre côté du répertoire avec la symphonie concertante pour violon et alto, et orchestre donc, de Mozart, et là qui bénéficiait de la participation de deux grandes musiciennes, vraiment, j'insiste, deux grandes musiciennes, la violoniste bulgare Lia Petrova et l'altiste française Lise Berthaud. Et vraiment, elles ont transformé cette œuvre en une sorte de duo d'opéra. On avait l'impression qu'elles chantaient à travers leurs instruments. C'était vraiment très, très beau. En particulier, l'andante, complètement hypnotique, hein, magnifique, avec ses effets d'écho. Donc, c'était vraiment un grand moment. L'orchestre, peut-être un peu nombreux pour l'œuvre, quand même bien dominé, bien réglé, bien maîtrisé. Et alors, elles ont eu un énorme succès, ces deux dames. Et en bis, elles ont joué l'adagio du duo pour violon et alto, Köchel 423, que Mozart a composé à peu près en même temps que la symphonie concertante. Donc, vraiment un très beau moment. Et puis, pour la deuxième partie, elle s'est ouverte par une sorte de gag musical, vraiment impressionnant. C'était l'arrangement d'une pièce originale d'un compositeur qui s'appelle Reng Tongxiang. Je ne garantis pas la prononciation du chinois. Et ça a été arrangé par Guan Xia, même chose donc. Et alors, cette œuvre, en anglais, il la nomme The Song of the Phoenix, donc le chant du phénix. Et vraiment, dans son arrangement, ça sonne comme un concerto pour suona et orchestre. Alors le suona, moi j'ai découvert, c'est un instrument à vent traditionnel chinois qui date du 5e ou 6e siècle, donc très ancien, et qui est de la famille des bois à hanches doubles, une sorte de cousin du hautbois.
En quelque sorte, oui. Voilà. La chalmie
un peu, oui, oui. Alors, sa sonorité, moi, je me suis permis de la qualifier d'épicée, oui, et de suraiguë, mais il faut admirer la virtuosité de la soliste qui s'appelle Yu Wenwen, qui jouait ça, mais avec une virtuosité incroyable, avec d'abord un souffle inépuisable. On avait l'impression qu'elle imitait les animaux, puisqu'on avait l'impression que son instrument caquetait ou hennissait. C'était vraiment très amusant. Alors, c'est une œuvre courte, mais intéressante, et qui a eu un succès fou. Et évidemment, le public était un peu passionné de ces nouvelles sonorités.
Oui.
Et enfin, le concert s'est terminé, cette fois, encore une fois, alternance oblige.
Là, on est en terrain de connaissance.
Oui, alors, la suite de 1919 du ballet L'Oiseau de Feu de Stravinsky, avec tout de même quelques petites imprécisions dans l'orchestre. En tout cas, c'était vraiment dynamique, avec cette explosion finale qui était évidemment spectaculaire. Ça a eu un très grand succès et ils ont répondu par deux bis. Le premier bis ressemblait à un hommage à la musique française, puisque c'était l'ouverture de Carmen. Et puis le second bis, c'est un titre en anglais, là aussi, Spring Festival, un festival de printemps, et qui est dû à un compositeur chinois, évidemment, Li Wanji, disparu en 2000. Et donc, le dialogue entre les deux musiques, c'est pour ça.
C'est un morceau célèbre en Chine. Hein,
il paraît.
Toujours est-il que certains de nos auditeurs se demandent peut-être à quoi ressemble le son du suona. Je vais donc satisfaire leur curiosité en leur faisant écouter un extrait de Hundreds of Birds Worshipping the Phoenix, le concerto pour suona arrangé par Guang Xia, la soliste de cette version, et Liu Wenwen, la musicienne qui officiait jeudi à la Halograin. Thank you. Andras of Birds Worshipping the Phoenix, le concerto pour Suona composé par Guangxia, ou plutôt arrangé par Guangxia, avec Liu Wenwen en soliste. Prochain concert des grands interprètes, ce sera le mardi 19 novembre pour une carte blanche à la grande pianiste portugaise Maria João Pires. Dernier événement sur lequel nous voulions revenir, le triple concert de l'Orchestre National du Capitole, mercredi, jeudi et vendredi dernier à la Basilique Saint-Sernin, avec le Chœur Philharmonique de Tokyo et le tout sous la direction de Kazuki Yamada. Le Requiem de Forêt trônait en majesté au cœur de ces soirées, mais il y avait aussi deux autres œuvres au programme, Serge, dont une création mondiale tout de même.
Ah oui, tout de même. Alors pourquoi il y avait trois représentations? Parce que là, évidemment, la contenance de Saint-Sernin, même avec trois concerts, ça n'arrive pas à la
moitié de la Lograin.
À la Lograin, quoi. Donc, et évidemment, c'était archi-comble, et il y a des tas de personnes qui n'ont pas pu entrer, d'ailleurs.
Et, oui.
Et donc, c'est vraiment dommage. Alors, ce programme était dirigé par le chef japonais Kazuki Yamada. On ne s'étonne plus à Toulouse d'entendre Kazuki Yamada dans la musique française. C'est un francophile incroyable et qui connaît la musique française parfaitement, que ce soit Fauré, Debussy, Ravel, et qui est un passionné de musique française. Et il l'a démontré là, avec une direction très raffinée, très belle, de l'ensemble du programme. Bon, ce programme ne comprenait pas que le Requiem, mais il s'ouvrait sur la petite suite de Claude Debussy dans l'orchestration d'Henri Bussert, pour orchestre. Donc. Et là, c'est vraiment, il a dirigé ça avec une sorte de raffinement, de grâce qui était tout à fait bienvenue. Ensuite, l'œuvre suivante, c'était la création mondiale en question, qui était une commande conjointe de l'Orchestre National du Capitole, de l'Orchestre de Paris et d'une association qui s'appelle The Svetlanov Legacy Charity. Elle était signée de Thierry Eskech, qui est à la fois organiste, chef d'orchestre et à la fois compositeur. C'était une œuvre qui s'intitule Towards the Light, c'est-à-dire vers la lumière, et qui prend un peu la forme d'un hommage à Gabriel Fauré et à son Requiem. Dans le texte de présentation de cette œuvre, il le dit absolument, c'est un hommage à Gabriel Fauré, et il fait même allusion à la partition du Requiem, dont on entend quelques notes
quelques
de
mesures.
Temps en temps. Donc c'est pour chœur, orgue et orchestre, et le texte poétique ou philosophique, quelquefois, est déclamé en plusieurs langues. Et il n'y a pas que le français, l'anglais ou autre, il y a des langues un peu exotiques.
Il n'y a pas d'ariégeois? Parce que vous savez, il a des racines ariégeoises comme Forêt, Thierry Eskech.
Donc, ce texte intègre à la fois des versets bibliques, des extraits de Lao Tzu et d'auteurs contemporains comme François Cheng aussi. Donc, belle œuvre, très riche de sonorités diverses, en particulier, et là, il avait renforcé l'orchestre avec des pupitres de percussion très sonores et très, très bien menées, et qui suit, comme son titre l'indique, une sorte de chemin lumineux avec un crescendo vraiment irrésistible. C'était une œuvre très intéressante dans laquelle Kazuki Yamada a réalisé une parfaite fusion entre l'orchestre et le chœur. Chœur excellent, je dois dire, vraiment, et on le retrouve ensuite dans le Requiem de Fauré. Là, vraiment, il faut s'incliner, c'est un chœur extraordinaire, hein, vraiment de qualité de timbre, de justesse évidemment, de précision, de rondeur, vraiment très beau. Et donc, le Requiem, bon, bien connu chez nous évidemment, dès l'introït, une intense émotion parcourait l'ensemble de l'assistance, avec les discrètes interventions de l'orgue, l'orgue n'est pas prédominant, sauf peut-être tout à fait à la fin.
Dans In Paradisum.
Dans le In Paradisum. Donc, très beau raffinement, avec des moments vraiment de grande émotion, comme le Hosanna, avec l'impulsion des cuivres, ben là, ça donnait vraiment le frisson. Hein. C'était très impressionnant. Et puis, il faut parler des deux interventions solistes, même si elles ne sont pas très longues. Il y a les deux interventions du baryton, Florian Sempé, que l'on connaît bien ici. Très beau dans Hostias, avec un ample timbre de chanteur d'opéra, peut-être presque trop dans le Libérame, mais c'était vraiment très beau. Et puis, le Pie Jesu, il était chanté par la soprano japonaise Maki Mori, d'un timbre angélique parfait. Elle était d'ailleurs à la tribune de l'orgue, elle chantait depuis les hauteurs, là, et c'était vraiment très touchant. Et là aussi, on a eu droit à deux bis. Tout d'abord, on ne s'attendait pas du tout à ça, le chœur a cappella qui a chanté une sorte de spiritual du compositeur japonais Toru Takemitsu. Une très belle œuvre. Et puis, il est revenu à Fauré ensuite pour diriger le cantique de Jean Racine,
ça va
dédié à César Franck, donc, oui. Et qui est vraiment une sorte de complément.
C'est merveilleux aussi, le cantique de Jean Racine.
Merveilleux. Donc, tout à fait, de la magie du lieu à la magie de l'orchestre et du chœur, ça a vraiment très bien marché.
Il faut citer l'organisme. pianiste, c'était Emmanuel Pellapra.
Absolument, Emmanuel Pellapra.
Cavaillé-École de Saint-Cernin.
Voilà, ce qui n'est pas
dont
rien.
Dont il est co-titulaire d'ailleurs, je crois.
Oui.
Après ces trois beaux concerts et cette belle version du Requiem de Forêt donnée par l'Orchestre National du Capitole et le Chœur Philharmonique de Tokyo sous la direction de Kazuki Yamada la semaine dernière, nous allons réécouter une version antérieure, bien antérieure, puisqu'elle a été enregistrée il y a 40 ans, mais c'était déjà par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Michel Plasson, celle-ci. Il s'agit du merveilleux In Paradisum avec le chœur Orfeon Donostiara. In Paradisum, dernière partie du Requiem de Forêt dans la version enregistrée en 1984 par l'Orchestre National du Capitole avec le chœur Orfeon Donostiara et sous la direction de Michel Plasson. Prochain concert de l'ensemble symphonique toulousain samedi 19 octobre à 20h à la Halle au Grain avec le pianiste Adam Laloum. Fin de cette première partie d'émission, une petite virgule musicale et l'on retrouve Serge Chosy et nos deux invités d'honneur, Jean-Marc Andrieux et Claude Scavazza, pour présenter la saison 24-25 des Arts Renaissants. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Seconde partie de cette émission avec Serge Chosy, nos deux invités d'honneur, Claude Scavazza et Jean-Marc Andrieux, respectivement président et directeur artistique des Arts Renaissants, dont la saison débute le mardi 12 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Claude Scavazza, est-ce que ce millésime 24-25 respecte la ligne artistique que vous avez mis en place depuis que vous êtes président de l'association, à savoir un mélange de grands noms de la scène nationale ou internationale, de jeunes talents et de musiciens d'ensemble originaires de notre région ou installés dans notre région?
Effectivement. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Eric, de nous accueillir encore cette année pour présenter à vos auditeurs donc la saison 24-25 des Arts Renaissants, qui sera la 42e saison de notre association, qui propose chaque année 6 concerts, vous le savez, de novembre à avril, au rythme d'un concert par mois. L'association a été créée en 1983 par Xavier Darras, et avait pour slogan à l'époque « Concerts au musée », puisqu'effectivement, pendant 35 ans, les concerts ont été donnés dans le fameux salon rouge du musée des Augustins. Alors d'une part, la fermeture du musée depuis maintenant 8 ans, avec une réouverture annoncée pour 2026, et aussi, il faut bien le dire, la nécessité pour nous d'avoir une jauge un peu plus importante pour accueillir notre public fait que nous le proposons maintenant dans des lieux toujours emblématiques du patrimoine toulousain, mais différents. L'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines et l'église Saint-Jérôme nous accueilleront pour nos concerts. Alors d'abord consacré aux musiques anciennes, le répertoire des Arts Renaissants, qui reste marqué, on le verra, par la musique baroque, s'est significativement élargi, allant jusqu'à proposer chaque année un concert où on mêle la musique classique, le jazz, les musiques du monde ou même des musiques actuelles. Donc ça fait partie de notre ADL. Donc la saison musicale va proposer, comme on le fait chaque année, une série de concerts qui fera voyager notre public dans le temps et l'emportera dans des divers univers musicaux. Vous le disiez, selon notre habitude, nous avons invité cette année des interprètes de renommée internationale, on le verra tout à l'heure, mais aussi des artistes régionaux pour honorer l'excellence régionale, locale, et aussi des jeunes talents pour faire connaître les étoiles montantes, comme on dit, les étoiles montantes de la musique classique. Alors à ce sujet, je voudrais préciser le soutien dont nous bénéficions cette année de la part de la fondation, la prestigieuse fondation AG2R à la Mondiale pour la vitalité de la vie artistique, un joli nom, hein, et qui a souhaité finalement récompenser, soutenir nos travaux, nos activités d'une manière générale, mais surtout la promotion des jeunes artistes et les actions visant à rejeunir le public de la musique classique. Et Dieu sait si c'était tout à fait nécessaire.
Il y en a besoin, oui.
Voilà.
Donc la saison 24-25 commence le 12 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Tous les concerts ont lieu à 20h avec d'emblée une proposition aussi originale qu'inédite, la venue de l'ensemble The Curious Bards. Même le nom est curieux. Je ne crois pas qu'on ait entendu jusqu'alors ces excellents musiciens à Toulouse. Alors attention, ils sont celtes, mais ce n'est pas des Irlandais. Ce sont des Bretons, c'est ça Jean-Marc, hein.
C'est ça, oui. Mais on est très heureux de les accueillir. En fait, je trouve que c'est intéressant de montrer les liens qu'il peut y avoir entre la musique ancienne et la musique traditionnelle, la musique populaire. En fait, cette frontière qu'on a un petit peu constituée...
Elle n'existait pas au départ.
Elle n'a jamais... Enfin, oui.
Beaucoup de grands compositeurs se sont inspirés des musiques traditionnelles de leur pays.
Elle est complètement artificielle, cette frontière. Et on va voir qu'il y a une interpénétration entre la musique ancienne et la musique traditionnelle, notamment ce qu'ils vont jouer, qui est la musique irlandaise et écossaise. Vous allez voir, ça va être un moment formidable de fusion entre ces deux genres qui ont cohabité naturellement.
Alors ce sont bien que des Français, hein, on est bien d'accord.
Oui.
Les Bretons, un groupe qui s'est formé en Bretagne, ils sont 6. Il y a un violon au baroque, c'est celui du directeur, de la directrice plutôt.
C'est la directrice, Alix Boisvert. En fait, ce sont tous des diplômés du conservatoire supérieur quand même, de musique baroque, qui sont très très forts.
Sarah Van Hoendenhove à la viole de gambe, Jean-Christophe Morel, alors lui joue du sistre irlandais, ça c'est particulier. Mm-hmm. Louis Capey joue de la harpe triple, Bruno Harlet, flûte, plusieurs sortes de flûtes, et puis il y a une chanteuse. Une mezzo-soprano.
Une chanteuse, Electra Platiopoulou.
Oui, ça sent plutôt la Grèce que le...
Tout à fait.
Qui
est d'origine grecque. Vous rendez compte un petit peu ce mélange des cultures, quoi, qui est formidable.
C'est les deux pôles européens, on dirait la Grèce et l'Irlande, j'aime bien, parce qu'on traverse, ouais. Voyez, là, du nord au sud, d'ouest en est, l'Europe. Ça sera des suites de trois airs à chaque fois. Il y a une suite de trois airs irlandais, puis une suite de trois airs écossais, puis encore une suite de trois airs écossais, puis une suite de trois airs irlandais, suite de trois airs écossais, suite de trois airs irlandais, suite... Voilà, c'est par trois. C'est du ternaire. Mais on se balade entre l'Écosse et l'Irlande, ce qui est quand même prometteur, hein, parce que là, on va beaucoup voyager, on va voir les paysages irlandais et écossais défiler sous nos yeux en ouvrant bien nos oreilles. Et bien, pour vous faire découvrir le son et la musique des Curious Bards, voici un des airs irlandais qu'ils vont jouer le 12 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisides. C'est une gigue, Robin Spower's Fancy. Thank you. Robin's Powers Fancy Gig irlandaise au programme du concert que donne The Curious Bards mardi 12 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Concert suivant le mardi 3 décembre, toujours à 20h, mais à l'église Saint-Jérôme, vous avez programmé l'ensemble baroque Il Gardellino, qui contrairement à ce qu'on pourrait croire n'est pas italien mais belge, et vous l'avez associé à Thomas Bloch, qui lui, contrairement à ce qu'on pourrait faire penser, son nom n'est pas allemand mais bien français, et c'est un spécialiste d'un instrument qui s'appelle le glass harmonica, autrement dit l'harmonica de verre. À quoi ça ressemble, Jean-Marc Andrieux, et quel son ça peut avoir cet instrument?
Oui, est-ce que vous avez prévu de nous en faire entendre un petit peu?
Oui.
Ah ah ah. Donc nos auditeurs vont entendre ce son cristallin, puisque c'est un instrument qui est fabriqué en verre. Ce sont des bols, imaginez, des bols de tailles différentes qui sont empilés comme des poupées,
comme
des poupées gigognes, et qui sont empilés horizontalement, et ils sont réunis par un axe qui tourne. Et donc, on trempe les doigts dans de l'eau
calcaire,
merci. Et on fait vibrer les bols avec les doigts, et comme on fait avec
on peut faire sur le bord d'un verre.
Mais quand même,
c'est un peu plus mélodieux, peut-être.
C'est plus mélodieux et plus amplifié. Et il faut savoir que Mozart adorait cet instrument, qu'il a écrit plusieurs œuvres que nous entendrons. Et donc, c'est l'occasion de découvrir, d'être curieux, de se dire, mais comment ai-je pu ne pas connaître cet instrument incroyable? Ce fameux Thomas Bloch a joué quand même, s'il y a des jeunes qui nous entendent, avec Radiohead. Hein, il a fait des musiques avec eux, avec John Cage, avec Tom Waits, avec Marianne Faithfull. Chaque fois qu'on entend cet instrument, et dans des musiques de films aussi, hein, dans Amadeus, on entend l'harmonica de verre de Milos Forman, dans La Marche de l'Empereur, il y a de l'harmonica de verre. Il a participé à toutes les grandes productions.
Alors, c'est apparemment un spécialiste des instruments bizarres, ce Thomas Bloch, parce qu'il joue aussi des ondes Martenot et du waterphone.
Et oui. Ben, il s'est spécialisé là-dedans et il le fait très très bien. C'est vraiment...
Alors un mot aussi sur Il Gardellino, bon, ensemble fondé en 1988, hein, c'est pas récent, hein, par un flûtiste belge donc, qui s'appelle Jan De Vin,
Jan De Vin.
Voilà, et puis alors lui est flûtiste, il y a un oboïste, une violoniste, un altiste et un violoncelliste, voilà.
Et c'est un ensemble là aussi qui tourne partout dans le monde. Il Gardellino, c'est vraiment une référence absolue.
Donc on aura du Mozart, notamment ses pièces pour glace harmonica. Il y aura un autre compositeur que je ne connais pas, mais qui doit être belge aussi, Hébert Philippe-Adrien Lemans.
Bien, figurez-vous qu'il me tarde de l'entendre parce que je ne le connais pas non plus.
Quatuor en do majeur pour hautbois, violon, alto et violoncelle. Voilà, donc compositeur du XVIIIe siècle. Et puis on aura Jean Chrétien Bach.
Un des fils de Bach.
Pas du tout. C'est l'anglais celui-là. C'est celui qui œuvrait à Londres, il me semble, Jean Chrétien.
Oui, le Bach de Londres.
Voilà, lui, il y aura un quintet pour flûte, hautbois, violon, alto et violoncelle. Eh bien, nous allons pouvoir découvrir le son du glass harmonica lorsqu'il est joué par Thomas Bloch avec cet extrait de l'Adagio K356 de Mozart.
Thank you.
étonnant son que celui du glace harmonica, ici joué donc par Thomas Bloch dans cet extrait de l'Adagio 456 de Mozart. Thomas Bloch et l'ensemble Gardellino sont en concert le mardi 3 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme. La suite, c'est le mardi 7 janvier, toujours à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Vous avez invité le trio Zélia. Alors ça, c'est un trio avec piano, dont la violoniste est une jeune musicienne toulousaine, pur produit de la formation musicale de la Ville Rose, Manon Galli, dont la carrière est maintenant très bien lancée, même si elle n'a que 28 ans, Jean-Marc.
Et bien sûr, il était incontournable d'inviter Manon, qui est une des grandes artistes, maintenant une jeune virtuose, violoniste, une fierté, une des fiertés de la ville de Toulouse.
Bah, elle a été révélation, ouais. Victoire de la musique, il y a 2-3 ans,
ouais, 2022, ouais, je crois. Tout à fait, et c'est l'équivalent d'Antoine Dupont et Léon Marchand. Pour le violon. Et oui, il faut le dire. Elle vient donc avec ce trio qui est quand même une référence absolue maintenant, qui viennent jouer en plus des œuvres emblématiques de cette formation violon, violoncelle et piano, Brahms et Schubert. Quoi rêver de mieux? Je pense que là, ça va être un moment de bonheur absolu.
Vous avez vu, Serge, on aura le trio numéro 1 de Brahms et le fameux trio numéro 2 opus 100 de Schubert.
Deux merveilles.
Ah oui,
deux.
Ils ont gâté là.
Ah oui.
Alors, je vais citer les deux autres musiciens. Donc, il y aura Maxime Quenesson au violoncelle et Jorge González Borrassan au piano. Bon, dans la vie, c'est le compagnon de Manon Galli, ce n'est pas un secret. Hein. Lorsqu'elle est interviewée, elle le dit, ils se sont connus au conservatoire. Et donc, toute cette petite bande, ce petit trio, bah, fait partie de Beaussoir Productions. Vous savez, cette espèce de maison qu'a créé Renaud Capuçon pour mettre le pied à l'étrier et soutenir tout un tas de jeunes musiciens comme ça. Ils en font partie et ils ont déjà
ils ont un CV déjà magnifique.
Tous font déjà de très belles carrières. Ils sont tout jeunes, ils ont moins de 30 ans, les trois. Hein. Voilà, le trio Zélia a enregistré cette année, c'est récent, il y a à peu près 6 mois, même pas, le trio numéro 2 opus 100 de Franz Schubert, un CD paru sous le label Mirare. Nous allons écouter leur version du deuxième mouvement Andante con moto, rendu célèbre entre autres auprès des cinéphiles par le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Le deuxième mouvement d'Andante con moto du trio numéro 2 opus 100 de Franz Schubert, joué par le trio Zélia. Le trio Zélia se produit donc le mardi 7 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le troisième concert de la saison des Arts Renaissants. Le quatrième concert a lieu, lui, le mardi 4 février, encore 20h et encore à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il va donner lieu à une première à Toulouse, encore une autre. Et je suis particulièrement heureux, je dois dire, qu'on puisse enfin entendre cette formation dans la Ville Rose. Il s'agit de l'ensemble vocal britannique Gesualdo Six. Là, pour ceux qui aiment les voix, c'est vraiment le très haut niveau, Jean-Marc.
Eric, c'était pour vous.
Ah bah merci.
Ben oui, j'ai senti que ça vous ferait plaisir de les entendre. Et que ce serait un plaisir partagé par tout l'auditoire. Ah. Parce que vous allez voir, alors là, vraiment, enfin, on est d'accord, c'est un des meilleurs ensembles vocaux.
C'est les nouveaux King Singers, pour
c'est
moi.
Voilà, c'est les héritiers des King Singers. C'est extraordinaire. On connaît évidemment l'héritage du chant choral en Angleterre et l'importance.
Ah ben là, oui,
c'est le pays du chant choral et du rugby. Alors on les accueille pour chanter, le reste on n'en parle pas. Mais sinon, non, c'est vraiment des chanteurs exceptionnels avec un programme là aussi. Je pense qu'on va passer un moment.
C'est vraiment génial. C'est un sextoire vocal masculin. Donc, 6 chanteurs a cappella, tous très jeunes, hein, ils ont 30 ans, plus ou moins 30 ans.
Oui.
Certains sont issus du Ténébré Choir, là, et dont Owen Park, le fondateur du Jesuel de Six, fait partie également. Lui, il est basse et il est compositeur, il compose aussi. Hein. Le programme a pour titre Fading, et ça va d'Hildegard von Bingen à Owen Park lui-même, Johanna Marsh, en passant par Gesualdo, bien sûr, et Franz Schubert. Vous allez pouvoir vous faire une idée de la justesse et de la beauté des timbres des Gesualdo Six avec cette interprétation de Fosse et Laron, une pièce composée par Owen Park, le fondateur du sextoire vocal. Les superbes voix des Gesualdo Six dans cette interprétation de Fosse et Laron, pièce d'Owen Park. Le sextoire vocal britannique est en concert à Saint-Pierre-des-Cuisines le mardi 4 février à 20h avec son programme Fading, avant-dernier rendez-vous de la saison, le jeudi 6 mars. C'est un jeudi, hein. Et à l'église Saint-Jérôme, à noter pour tous les amoureux de la musique baroque française, parce qu'on va y entendre bien, en particulier la viole de gambe. Vous accueillez le gambiste italien Vittorio Guelmi avec Christophe Urbanetz, un autre gambiste, et le luthiste Luca Pianca. Vittorio Guelmi, grand spécialiste de la viole de gambe, Jean-Marc.
Oui, je suis désolé parce que je n'utilise que des superlatifs, mais là, ça va être superlativement magnifique. Voilà, encore une fois, je crois que c'est une des plus belles saisons.
En plus d'une variété, d'une originalité.
Et le niveau, Vittorio Guelmi, c'est un des grands virtuoses mondiaux de la viole de gambe, spécialiste de marais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce concert, on a la chance de pouvoir l'organiser en collaboration avec la Bibliothèque du patrimoine de Toulouse. À Toulouse, il y a un exemplaire des pièces de viol de marais. Ces partitions-là étaient éditées à l'époque. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'à Toulouse, nous avons un exemplaire annoté de l'époque, et ça c'est rarissime. Vittorio Guelmi, évidemment, l'a su, est venu étudier les indications manuscrites sur cette partition imprimée de l'époque. Donc il y aura un gros travail là aussi musicologique, de restitution de ces indications. Et Vittorio Guelmi fera aussi une masterclass au Conservatoire de Toulouse. Et je crois qu'il y a une conférence prévue, à la Bibliothèque du Périgord. Donc voilà, un rendez-vous incontournable pour ceux qui aiment la viole de gamme.
D'ailleurs, le programme est intitulé « Le secret de Monsieur Maramarais ». Secret de Monsieur Maramarais. Voilà. Donc il y aura des œuvres de Maramarais, bien sûr, mais aussi de son maître, Sainte-Colombe.
Oui.
Vous savez, le film Tous les matins du monde, Sainte-Colombe, oui, c'est Jean-Pierre Mariel, Maramarais, c'est Gérard Depardieu,
et
Maramarais jeune, c'est Guillaume Depardieu. Et puis il y aura Robert de Vizet aussi.
Robert de Vizet, c'est des pièces de lutte.
De lutte,
qui était le luthiste de Louis XIV, bien sûr.
Voilà.
Et le secret, mais ne connaîtront ce secret que ceux qui viendront.
Voilà, et on sera en plein grand siècle. Je vous laisse découvrir la sonorité de la viole de gambe de Vittorio Guelmi dans cet extrait du livre 4 des pièces de viol de Maramarais, Badinage. Il est accompagné par le luthiste Luca Pianca. Jean-Marc Andrieux me disait que c'était du badinage, mais du badinage artistique, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire. Donc extrait,
oui,
du, livre
glissons,
4,
glissons,
extrait
glissons.
Du livre 4 des pièces de viol de Maramarais, joué par Vittorio Guelmi, accompagné au luth par Luca Pianca. Vous allez les retrouver tous les deux avec le gambiste Christophe Urbanetz, jeudi 6 mars à 20h à l'église Saint-Jérôme. Et puis dernier concert de la saison, le mardi 1er avril, c'est pas un poisson, hein, c'est le mardi 1er avril à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, où vous avez programmé une chanteuse que vous aimez beaucoup aux Arts Renaissants, puisque ce n'est pas la première fois que vous l'avez invitée, la soprano Patricia Petitbon, accompagnée pour l'occasion par l'ensemble Amaryllis d'Héloïse Gaillard. Le concert a un sous-titre qui intrigue, Destin de Reine. Qu'est-ce qu'on va y entendre, Jean-Marc ?
Oui, trois reines. Trois reines et Patricia Petitbon incarne ces trois reines à la fois. C'est vraiment une reine du chant baroque avec l'ensemble Amaryllis. Elle nous proposera donc d'entendre des extraits d'œuvres de Purcell, notamment Fairy Queen et Queen Mary. Ça, c'est donc la première reine. Aliénor d'Aquitaine, reine de France et d'Angleterre. Là, on entendra aussi des œuvres de Purcell, mais aussi de Thierry Esquèche, dont on a parlé tout à l'heure dans la chronique de Serge. Et oui, bien sûr, c'est des poèmes d'Olivier Py. Donc, on parlera d'Aliénor d'Aquitaine. Et puis, la troisième reine, c'est Agrippine. Agrippine, impératrice romaine, dans des extraits de l'opéra éponyme de Handel.
Pour illustrer ce programme, on va vous faire entendre Patricia Petitbon, accompagnée par l'ensemble Amaryllis, et elle chante The Plaint, un air extrait de The Fairy Queen, l'opéra d'Henry Purcell. The Plaint, Airden Reapers, c'est l'extrait de son opéra The Fairy Queen, chanté par Patricia Petitbon, accompagnée par l'ensemble Amaryllis. Il donne le 6e et dernier concert de la saison, mardi 1er avril à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Voilà donc pour la programmation 24-25 des Arts Renaissants. Je voulais signaler aussi à nos auditeurs le concert de l'Orchestre National du Capitole, ce samedi 19 octobre à 20h, là, à Lograin, où le pianiste Adam Laloum se produit aux côtés de l'ensemble symphonique toulousain pour jouer le concerto pour piano numéro 24 de Mozart. Il y a également au programme la symphonie numéro 4 d'Anton Bruckner. C'est le chef allemand Frank Behrmann qui dirige ce concert, pour lequel vous pouvez acheter et réserver vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Un grand merci à Serge Chosy, Jean-Marc Andrieux et Claude Scavazza d'avoir été les invités de cette émission. Je rappelle que la saison 24-25 des Arts Renaissants commence le mardi 12 novembre avec le concert de l'ensemble The Curious Bards à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Les réservations et la billetterie sont en ligne sur le site www.art-renaissant.fr où vous trouverez aussi tout le détail de la programmation de la saison. Merci à Christophe Aubry, le réalisateur de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Merci à vous tous de votre fidélité à l'écoute de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.